Comment déménager en toute sécurité pendant la pandémie? Parce que s'il y a bien une leçon que nous avons apprise, mesdames, messieurs, pendant la pandémie, c'est que souvent, un vecteur de transmission du COVID, pas de la COVID, mais plutôt du coronavirus, dans sa transmission, c'était on entre, on sort. Alors, une journée de déménagement, c'est exactement ça. Vous faites des allers-retours sans cesse avec vos proches, avec des gens qui viennent vous aider, des amis, et les déménageurs aussi. Alors, quelques consignes avec celle qui nous a accompagnés aussi pendant la pandémie, avec son expertise, le docteur Caroline Couache du CHU Sainte-Justine. Docteur Couache, bonjour.
Bonjour.
Vous ne déménagez pas, docteur Couache, dans les prochains jours?
Mon Dieu, non, une chance.
Une chance! Parce que je disais, docteur Couache, que dans l'échelle du stress, le déménagement dans la vie d'une personne, c'est parmi les situations les plus stressantes. Imaginez-vous en période de pandémie. C'est encore pire.
Ah, c'est clair. Puis en plus, il fait chaud.
En plus, il fait chaud. Et comme je disais, vous n'avez pas, je dis vous, parce que oui, les experts l'ont dit, docteur Arruda, tout le monde, tous les médecins à qui on parlait, et vous-même, docteur Kouach, c'est une façon de transmettre le coronavirus, c'était les entrées-sorties et tout ça. On l'a vu non seulement dans les résidences pour aînés, mais il y a beaucoup de circulation dans tous les sens la journée d'un déménagement. Est-ce qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit cette fameuse distanciation?
En fait, le problème, c'est pas les allées et venues, c'est le nombre de personnes que vous allez rencontrer et avec qui vous allez avoir un contact rapproché et prolongé. Donc, c'est sûr qu'en période de déménagement, bon, on va prendre un groupe. Là, habituellement, c'est le même groupe qui va déménager toute la journée ensemble. Mais c'est sûr que si dans ce groupe-là, il y a une personne qui est porteuse asymptomatique, c'est fort possible que tous les autres finissent par être malades à la fin de la journée. Surtout si on n'est pas capable de porter le masque, si on n'est pas capable de rester à 2 mètres, si à la fin de la journée ou sur l'heure du midi, on en a marre et on s'assoit un à côté de l'autre pour prendre une bière avec une pizza, sans réfléchir en fait au fait que quand on est tous collés les uns sur les autres, c'est là où on a plus le risque de se le transmettre. Donc vraiment, le déménagement, c'est comme un rassemblement, en fait, à très rapproché. Mais c'est pas qu'on rentre et qu'on sort sans arrêt là, d'un endroit ou d'un autre. C'est vraiment qu'on va tous être collés les uns sur les autres parce qu'il faut bien déménager, finalement.
Est-ce que, parce que là, évidemment, on pense à une transmission aérienne, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur la fameuse durée de vie du coronavirus et à l'extérieur, sur des surfaces? Parce que quand on déménage, on transporte des boîtes, on touche au mur, on touche à des poignées de porte, on ne cesse de toucher de façon considérable dans une seule journée. Est-ce qu'on a un peu plus de précision sur la possibilité d'attraper la COVID-19 par le toucher?
Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que la transmission du coronavirus se fait principalement par les gouttelettes, pas en aérien, c'est-à-dire que ça reste pas en suspension pendant des heures dans l'air, mais vraiment par les gouttelettes là, qu'on émet quand on parle et qui vont atterrir directement dans le nez ou l'œil de notre voisin d'en face. C'est vraiment comme ça qu'on le transmet le mieux. Parce qu'il y a du toucher, ça semble être moins efficace que ce qu'on pensait, même si ça survit là, quand même quelques heures à quelques jours sur les surfaces lisses, surtout. Ce qu'on a vu dans une étude qui a été publiée récemment, c'est que dans un édifice public, les seuls gens qui ont été infectés à partir d'une personne malade, c'était les gens qui travaillaient dans le même bureau là, et qui échangeaient l'air de proche avec cette personne-là. Tous les autres qui étaient dans l'édifice, qui avaient touché au même bouton, poignée de porte, lavabo et tout ce que vous voulez, ne l'ont pas attrapé. Donc, vraiment, ce qu'on voit, c'est que, oui, les surfaces peuvent transmettre, mais jamais autant que quelqu'un qui est en face de toi puis qui te le crache directement dans les yeux.
Donc, gouttelettes, ça veut dire que, évidemment, il fait chaud et on a encore plus chaud quand on déménage. Mm-hmm. Ça, c'est pas facile de déménager avec un masque.
Ça, je vous le conseille. Donc, on essaye le plus possible de ne pas être proche l'un de l'autre. Si on est capable de porter les boîtes chacun soi-même et pas se mettre à deux pour porter une boîte, c'est mieux. Si on est capable, c'est sûr que le plus difficile, c'est quand il va falloir descendre un gros meuble où il va falloir qu'on soit un en face de l'autre. Si le meuble est assez long, genre un divan, il n'y a pas de problème parce que il fait 2 mètres déjà le divan au moins. Quand il y a un réfrigérateur à descendre avec les sangles, ben le réfrigérateur sert quand même de barrière physique. C'est-à-dire que même si je parle à mon côté de réfrigérateur, puis la personne en face me voit pas. Je dirais que le plus difficile, c'est quand on va descendre genre la laveuse, parce que là, elle est plus basse. On est à moins à 1 mètre et quelques l'un de l'autre. Donc, dans ce contexte-là, si on est capable de porter un masque juste pour descendre ces gros meubles-là où on est face à face, ça serait idéal. Puis on se lave les mains. C'est sûr qu'au le toucher, ça peut arriver, mais en autant qu'on se lave les mains avant de se les mettre au visage, ça va. Mais je vous dirais que le plus risqué, c'est d'être en face à face.
Oui, et évidemment, chez les déménageurs professionnels, eux ont déjà des consignes, ils ont déjà des mesures qu'ils respectent, mais c'est pas le moment de les aborder directement dans leur travail, c'est-à-dire sur eux, ne pas respecter la distanciation avec les déménageurs.
Ah, tout à fait. Puis si on a le luxe d'avoir des déménageurs, je pense qu'on peut les laisser travailler. En fait, moi, c'est ce que je fais quand je déménage.
Oui,
je les aide pas.
Non, vous avez raison. Sauf que des fois, ils arrivent à une place, puis ils disent, où est-ce qu'on on dépose la commode, où est-ce qu'on dépose le lit et tout ça, et on a tendance à être à proximité d'eux au moment du déménagement.
On est capable de leur parler à 1,5 mètre, 2 mètres. Là, je pense que ça se fait tout à fait bien. Puis encore une fois, il faut se rappeler, c'est un nombre de minutes cumulatives. T'sais, ils vous demandent où est-ce que je mets la commode, ça prend 30 secondes, vous leur dites là dans le coin à gauche, c'est fini. Je veux dire, c'est vraiment quand on cumule le temps au-delà de 10 à 15 minutes dans une journée, donc à coup de 30 secondes, je pense que ça va. Là.
Et vous avez raison, dans un déménagement, quand on peut se laver les mains, parce que c'est salissant en plus, on brasse de la poussière, on a toutes sortes de choses sur les boîtes et tout ça, et c'est pas toujours facile de se trouver un endroit pour se laver les mains pendant 20 secondes et de chanter une chanson comme le docteur Arruda.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il faut juste se rappeler que ce virus-là survit bien sur des surfaces lisses. Le carton, c'est loin d'être lisse. Alors, il va pas survivre si longtemps que ça sur du carton. Là, on parle de une journée gros max, mais c'est vous qui avez fait les boîtes. En théorie, là, c'est plus vos choses à vous. Donc, l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que ce virus-là semble moins bien survivre à la chaleur. Ça tombe bien, il fait chaud.
Ouais. Eh bien, docteur Kouach, on profite de votre présence. Quand même, je voudrais élargir un petit peu la conversation parce que nous, en fin de semaine, ici, on a beaucoup insisté sur cette propagation inquiétante, notamment dans les grands États très peuplés américains. Californie, Texas, Arizona, mais là, surtout la Floride. Près de 10 000 nouveaux cas en 24 heures. La plupart des nouveaux cas sont dans la catégorie d'âge des moins de 35 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette... On est loin, là, d'avoir réalisé un plateau et on n'aplatit pas la courbe de cette première vague aux États-Unis dans ces États.
Non, en fait, avec le déconfinement qui s'est fait très rapidement, alors qu'il y avait encore de la transmission communautaire, c'est sûr que aussitôt qu'on permet les rassemblements, ouverture de bars, de restos, d'événements à grande envergure, c'est sûr qu'à ce moment-là, comme je vous disais tout à l'heure, le risque de transmission augmente avec le nombre de personnes qu'on rencontre. Et encore plus si on les rencontre de près. Donc, dans un bar, quand on est à moins de 2 mètres et qu'on commence à être un peu alcoolisé, le 2 mètres rapetisse de plus en plus, on a envie de se rapprocher. Et donc, c'est là où il va y avoir de la transmission. Je vous dirais que pour l'instant, le seul bénéfice, ou en fait le seul avantage, c'est que, point positif plutôt, c'est que ce sont des jeunes qui l'attrapent. La seule chose, c'est que ce jeune-là n'est pas en confinement chez lui sans arrêt. Là. Il y en a une bonne proportion là-dedans qui vont demeurer asymptomatiques ou qui transmettront avant même d'avoir des symptômes. Et ils peuvent à ce moment-là infecter d'autres personnes qui, elles, verront des personnes vulnérables. Parce que ce que les gens disaient ce matin quand j'écoutais les nouvelles, en Floride, c'est qu'ils disaient, ben moi, ça me dérange pas d'être infecté parce que, anyway, je vois personne qui est à risque. Mais si cette personne de 25 ans-là ne voit personne qui est à risque en le sachant, ça ne veut pas dire qu'en allant à l'épicerie ou en allant ailleurs, elle n'infecte pas une personne de 40 ans, par exemple, qui, elle, travaille dans un centre de longue durée où il y a des personnes âgées qui pourraient, à ce moment-là, en infecter. C'est comme ça que notre crise à Montréal a commencé aussi. Ce sont des gens qui sont rentrés sans savoir même qu'ils étaient infectés. Donc, oui, c'est vrai, ce sont des jeunes, puis bon, ça devrait bien aller, mais plus on a de cas, plus on risque éventuellement d'infecter des gens à risque. Et on le voit, là, les soins intensifs, entre autres à Houston, sont pleins. Et ils commencent à crier à l'aide, manquer de matériel encore. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légère.
Et c'est ce qui est encore plus surprenant, c'est que la Californie, qui est l'État le plus populeux, imaginez-vous, 40 millions d'habitants, c'est plus que le Canada tout entier. La Californie avait été un modèle dans la gestion de la crise. Ils avaient pris des mesures de confinement très rapidement. On avait procédé à la fermeture des endroits les plus sensibles, que ce soit la restauration, les bars et tout ça. Et voilà que ça repart, mais encore peut-être avec plus de virulence qu'au moment du début de la pandémie.
Oui, tout à fait. En fait, la première vague dans certains endroits a été très petite. Et donc, ils sont à risque d'une deuxième vague bien plus importante. Je parlais avec une collègue cette semaine en Californie. Elle dit que dans son comté, le port du masque avait été rendu obligatoire et eux n'avaient pas vu d'augmentation de cas aussi importante que dans les comtés voisins. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites sans être obligés de reconfiner complètement. Mais ce qu'on voit, c'est que on n'a pas gagné encore la guerre contre ce virus.
Absolument. Et on n'est pas techniquement, Dr Quash, dans ce qu'on appelle la fameuse deuxième vague. C'est toujours cette première vague là qui s'est amenée en Amérique quelque part fin février, début mars.
Oui, ben nous, en fait, on a fini notre première vague parce qu'on est vraiment dans le bas de la courbe. Les États-Unis avaient commencé à baisser, puis ont déconfiné tout de suite. Alors, ils ont recommencé à monter. Là, à un moment donné, on ne sait plus, est-ce qu'on parle d'une deuxième vague qui s'est ajoutée sur une première. Je veux dire, c'est de la sémantique, mais eux n'ont jamais réussi à vraiment baisser avant de relâcher les mesures. Donc, c'est ce qu'on voit.
Une dernière petite chose sur le masque. On est encore très partagé. Aux États-Unis, on en fait même une question de droit et liberté. Ici, c'est peut-être plus nuancé, mais je voyais un sondage la semaine dernière. Seulement 42 % des gens semblent favorables au port du masque lorsqu'ils vont à des endroits comme l'épicerie ou des magasins à grande surface. Bref, dans des endroits un peu plus fermés. C'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a une majorité de gens là qui ne croient pas véritablement à l'efficacité du masque.
Oui, j'en conclue la même chose que vous et je trouve ça franchement désolant parce que je pense que le port du masque pourrait nous prémunir contre une augmentation des cas, un peu comme ce qui est vu aux États-Unis. Puis, c'est pas demandé de le porter quand on va se promener dehors, qu'on mange à une terrasse avec des amis. C'est vraiment quand on est dans des endroits publics, fermés, en particulier dans le transport en commun, où on est un peu plus collés les uns sur les autres, pour protéger tous ceux qui sont autour de nous. Je comprends que c'est pas toujours confortable, mais certains d'entre nous le portons à la journée longue parce qu'on est en milieu hospitalier. Puis, bon, je peux pas dire que ça me fait triper, mais on le fait, là. Et donc, c'est faisable. Je comprends que certaines personnes vont trouver que leurs droits et libertés sont enfreints par cette demande-là, mais quand on regarde d'un point de vue plus macroscopique, si on peut s'éviter de retourner en confinement puis d'être obligé de tout refermer l'économie, je pense que ça vaut la peine.
C'est malheureusement le cas, Dr Quash, au Texas, où le gouverneur a dit « On a peut-être déconfiné trop rapidement, on a permis la réouverture des restaurants et des bars, ben maintenant il faut refermer. »
Mais c'est ça. Puis on regarde en Chine aussi, ils sont en train de reconfiner des quartiers complets, ils referment les écoles. Personnellement, je veux vraiment pas voir une autre période de confinement comme celle qu'on a vue au printemps. Puis je me considère chanceuse. Moi, j'ai été travailler tous les jours, là. Mais ceux qui sont restés à la maison, je regarde tous ceux qui ont été pris en télétravail avec les enfants, qui est en train de devenir fou, toute l'économie qui en a pris pour son rhume aussi.
Ben oui, vous travaillez évidemment auprès des enfants, des jeunes. Vous êtes en mesure de constater donc que ça a eu, ce confinement, un effet très important, là.
Bien, je vous dirais que les collègues en pédopsychiatrie nous l'ont dit, ils ont eu plus de consultations pour détresse psychologique à la fois des enfants et de leurs parents que de cas de COVID admis à l'hôpital que nous, on a vu. Donc, c'est cette espèce de déséquilibre-là où tu dis, écoutez, il faut vraiment permettre aux enfants puis aux adultes aussi là d'avoir des contacts sociaux puis de faire quelque chose dans la société. C'est dur à vivre, ce confinement-là. Les gens, on est tous, nous sommes des animaux grégaires. On a besoin de voir nos collègues par d'autres moyens que par Zoom, là, parce qu'on n'en peut plus du Zoom.
Mais vous avez raison, le Zoom, le Skype, appelez ça comme vous voulez, on n'en peut plus, c'est certain. Le docteur Arruda semblait inquiet jeudi. Il a dit, il ne reste plus maintenant que trois choses qu'on ne peut pas vraiment déconfiner. Il parlait des sports de combat, il parlait des grands rassemblements, notamment. Mais il dit, on demeure comme inquiet, en ce sens, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle un relâchement. Est-ce que vous partagez son opinion?
Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. La décision de tout déconfiner maintenant, ça leur appartient. Ça ne veut pas dire que tous nous sommes d'accord avec ce déconfinement rapide-là. Mais bon, je pense qu'après ça, une fois que le gouvernement a pris sa décision, il faut qu'ils vivent avec. Et donc, on verra, là, mais je pense qu'une des alternatives, c'est vraiment le port du masque en milieu fermé. Puis, c'est possible que s'ils voient une réaugmentation du nombre de cas, comme aux États-Unis, les bars referment, puis certains milieux referment aussi.
Mais... Ouais. Mais ça, on veut pas ça, parce que ça, l'expérience de la réouverture des écoles, donc évidemment à l'extérieur de Montréal, est une expérience qui semble avoir été positive. Il n'y a pas eu vraiment d'éclosion en particulier.
Tout à fait. Donc, il y a à peu près pas eu d'éclosion dans les garderies qui ont continué à être ouvertes à Montréal et qui ont réouvertes à Montréal pour les travailleurs essentiels à partir de mai. Il y a eu quelques cas qui sont survenus, mais jamais de grosses éclosions. Si on parle de 2, 3, 4 cas à chaque moment. Puis donc, on a mis le groupe en quarantaine, mais le reste de la garderie a continué à fonctionner. Souvent, c'était des adultes qui étaient le cas index dans ces éclosions-là. Donc, ça peut bien aller, mais c'est sûr que si le niveau de transmission communautaire est très élevé, il va y en avoir aussi dans les écoles. Puis comme ils sont en classe sans masque, sans rien, c'est sûr qu'il va y avoir de la transmission au niveau d'une classe.
Et Dr Kouach, le grand test, ça va être la réouverture complète à tous les niveaux scolaires à l'automne, incluant le Grand Montréal.
Tout à fait. Et je pense que ce qui manque présentement, je pense que c'est vraiment des mesures applicables et claires. Vous avez dû voir la pétition qui est passée là, des profs du secondaire qui demandaient de cesser les bulles de 4 à 6 enfants parce que c'est inapplicable au secondaire. Je pense que ce qu'on avait proposé, c'était que ces bulles-là soient faites au niveau d'un groupe. Donc, le groupe de 25-30 se suit partout et est assez étanche aux autres classes. Qui fait que si jamais il y a de la transmission dans ce groupe-là, bien, ce groupe-là est en quarantaine, mais on n'est pas obligé d'arrêter tout le niveau et toute l'école.
Oui. Merci, Dr Kouach. Toujours très intéressant de vous parler. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.
Dr Caroline Kouach, qui est bien sûr associée au CHU Sainte-Justine.